Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité de la semaine. Et comme le dit si bien le titre de l'émission, on va vous dire qu'est-ce que nous, on en pense. Moi, bien sûr, et aussi mon panéliste de renom, M. Patrice Bouchard, politologue, enseignant en sciences politiques et conseiller municipal à Dolbeau-Missassigny. Bonjour, Patrice.
Salut, Pierre.
Ça va bien?
Super. On a plein de beaux sujets aujourd'hui. Puis, juste avant de commencer, si tu permets, je voudrais dire aux gens, tu sais, comme aujourd'hui, là, la date du tournage, on est le 12 février. Fait qu'évidemment, on s'inspire beaucoup de l'actualité du matin, mais sinon, des fois, on va y aller avec des dossiers pour que ça dure un peu plus dans le temps, si je peux dire.
Ben oui.
Puis, donc, je pense que c'est une approche qu'on essaie de développer parce que on sait, là, si vous écoutez l'émission dans quelques jours, par exemple, ben des fois, ça peut amener un certain décalage si on est trop proche de la journée même. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a préparé peut-être certains dossiers là qui...
C'est une des problématiques, en fait, d'actualité, c'est qu'il faut être collé à l'actualité quand on fait une émission d'actualité. Malheureusement, le cadre dans lequel on est, on tourne le mercredi et ça sera en ondes seulement le lundi suivant.
Oui.
Donc, bon point que tu apportes là, Patrice. J'aimerais commencer par un petit bravo. Justin Saint-Pierre, hein, arbitre dans la Ligue nationale de hockey qui vient de la MRC, un gars dont tout le monde est très fier. On sait que le hockey, c'est dans notre ADN.
Et qui répond présent. Hein?
Oui.
À chaque fois, à peu près, je pense. En tout cas, il a l'air très disponible.
Très disponible. Il est très, très attaché à son coin de pays. Eh bien, il va arbitrer son 1000e match dans la Ligue nationale de hockey. C'est quand même tout un exploit pour un petit gars du coin. Je veux lui dire bravo. Là, je trouve que ça démontre aussi qu'on peut réussir dans la vie nos rêves.
Puis pour arbitrer 1000 matchs, tu sais, lui, entre les matchs, tu sais, c'est quelqu'un qui voyage, c'est bon, décalage horaire, ça prend une forme physique, t'sais. Lui aussi, il faut qu'il s'entraîne.
Ben, oui, oui.
Puis, si, par exemple, t'arrives avec des jeunes de la Ligue nationale de 22, 23, 24 ans qui sont au top de leur forme physique, puis que lui, je sais pas quel âge il a, là, peut-être, je sais pas, là, 40, je vais dire, je sais pas, mais ça demande quand même toute une mise en forme, là, parce que le jeu est de plus en plus rapide, tu sais, les joueurs de hockey arrivent très préparés, très entraînés, tu sais, on n'est plus du temps de Maurice Richard, là, tu sais.
Ouais.
Rien d'enlever à Maurice Richard,
non,
vous comprenez ce que je veux dire.
Lui, il doit exercer son jugement à une fraction de seconde.
C'est
là.
Très rapide.
Très rapide, puis en plus, tu sais, des fois, quand ça s'échauffe, là, puis il y a une couple de coups de poing qui partent. Il faut qu'il aille séparer deux gars qui sont peut-être plus forts.
Plus grands, plus gros, plus forts, absolument.
Ça va être quelque chose.
Oh, oui.
En tout cas, bravo, Justin Saint-Pierre, on est bien fiers de toi. Je parle au nom de la MRC, hein, je prends ce crachoir-là ce matin.
OK.
Bon, plein de petits dossiers dont tu voulais parler. Congélerie héritier, pourquoi tu veux me parler?
En fait, c'est que moi, j'aime ça, dans le cadre de cette émission-ci, arriver avec ce que j'appelle des success stories.
Ouais.
Tu sais, des gens qui se décollent, des entrepreneurs et qui réussissent. Tu sais, je trouve ça rafraîchissant, encourageant, porteur d'avenir. Et je voyais ce matin, donc, Congélerie héritier, qui ont congelé 80 000 livres de gourgane.
Wow.
Et qui aspirent à en congeler 500 000 livres.
C'est beaucoup, hein?
Mais ils ont aussi, ils congèlent pas juste de la gourgane, ils congèlent du bleuet, ils ont congelé 7 millions de livres de bleuet et 40 000 livres de Camrys. Puis, ce qui est intéressant, c'est que donc, ils ont des projets, ils ont une vision, et les gens qui sont en arrière de ça, notamment M. Jacqueline Drapeau et Émilie Godreau. Moi, je connais pas personnellement Mme Godreau, mais c'est parce que dans la même édition du quotidien d'hier, quelques pages plus loin, on apprenait que Délices du Lac-Saint-Jean, et c'est là que Mme Émilie Godreau entre en ligne de compte, ben ils diversifient le produit parce qu'ils ont vendu dernièrement une tonne de bleuet déshydraté en sachet.
Ouais.
Du bleuet déshydraté aussi qui peut être enrobé de chocolat. Et c'était comme ce que j'ai compris de l'article, que c'est un nouveau produit, c'était comme un test. Ils voulaient écouler une tonne, puis finalement, ils l'ont écoulé, mais tout de suite, et non...
Non, pas pour
la saison,
ouais,
ou pour l'année comme ils le souhaitaient. Donc, au-delà de leur espérance. Et en plus, j'apprenais, et ça, je le savais pas, qu'au Délices du Lac-Saint-Jean, on offre des ateliers de mixologie.
Ah! Oh, pour ceux qui veulent se faire des drinks.
Oui, semble-t-il, c'est très populaire.
Uh-huh.
Puis, donc, bon, j'imagine que là, eux, ils doivent avoir des recettes inspirées, là, bleuet, borelli, je sais pas trop, là, mais bref, fait que Émilie Godreau, qui, on se rappellera déjà avec sa famille, hein, parce qu'ils sont trois, ont déjà passé à l'émission Les Dragons, qui ont repris Délices du Lac-Saint-Jean, une entreprise qui existait, mais ils ont redonné tout un élan, un essor à cette entreprise-là. Puis, je trouvais que ça méritait méritait d'être souligné, ça. Puis, autre succès, mais qui n'est pas dans notre MRC, mais qui est du côté de Saint-Prime. On se rappellera, il y a quelques années, la fermeture des industries Tanguay, ouais, où ça va être un dur coup pour la municipalité. Et là, on a deux entrepreneurs, Frédéric Baudouin et Sandra Côté, qui ont été patients, ont repris la bâtisse pour faire, je dirais pas un incubateur, mais un peu comme un incubateur. Ils ont mis aux normes la bâtisse et présentement, la bâtisse, elle est pleine. Il y a 10 entreprises, 75 emplois, c'est 90 000 pieds carrés. Puis là, ben, ils se tournent vers l'avenir en disant, bon, ben, est-ce qu'on va agrandir? Est-ce qu'on va bâtir une autre bâtisse? Écoutez, pour Saint-Prime, là.
Ouais, c'est génial.
C'est 75 emplois. Tu sais, t'occupes un lieu qui était, je dirais pas à l'abandon, mais qui était pratiquement vide. Et alors, encore là, ici, on a une belle initiative. Fait que là, ça fait comme trois initiatives dans des domaines bien différents. Alors, je trouvais important de le souligner et de féliciter les gens qui sont en arrière de ça.
Oui, parce que, tu sais, on parle qu'on a besoin d'entrepreneurs, on veut diversifier notre économie.
Un exemple.
C'est exactement ça. Puis pour la municipalité comme Saint-Prime, ben écoute, c'est des taxes qui rentrent, c'est beaucoup de choses. C'est un dynamisme aussi économique qui se retrouve dans la municipalité. Là,
oui, important. Parce que il faut bien comprendre que 75 emplois à Saint-Prime, toute proportion gardée, là. Mm. Je m'imagine, ça doit bien valoir 700 à Montréal. Tu sais, je veux dire, à toute proportion gardée, c'est majeur. C'est beaucoup,
oui,
là.
Quand même.
Donc, voilà.
Bravo, bravo, bravo. On va parler aussi de ces certaines drogues aussi qui font...
Autre bonne nouvelle, ben, du côté de Domaine du Roi aussi, mais on parle d'une phase 2, 40 millions de dollars qui vient augmenter les capacités de production. Ce que je crois comprendre aussi, c'est qu'ils vont faire... j'allais dire l'élevage, c'est pas l'élevage, mais la culture de bouture, je sais pas trop, là, pour augmenter leur production. Et avec cet investissement-là, dans le journal, on parlait de 85% de la production de cocon pour le Québec, pour les besoins du Québec, vont venir de Sertundra, principalement dans les GIR.
Fait qu'on limite,
qui l'aurait cru, là, quelques années, là, tu sais, quand on dit. Puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, hein, sur certaines drogues, à tort ou à raison, peu importe, je veux pas embarquer là-dedans, mais force est de constater. Puis écoutez, je pense que c'est 80% des travailleurs sont guatémaltèques ou colombiens, ou bon, bref, qui viennent de l'international. D'ailleurs, ça avait soulevé là, les passions quand les propriétaires se sont... porté acquéreur du presbytère à Saint-Félicien pour le transformer en hébergement. Ouais. Il y avait eu tout un débat du côté de Saint-Félicien par rapport à ça. En même temps, bon, ben si tu remplis ton presbytère, qu'il y a 40 personnes qui sont proches des services, qui animent ton centre-ville en quelque sorte. Ouais, je veux dire, c'est pas rien, ça. Alors, on est obligé de dire qu'encore une fois ici, on a une bonne nouvelle, puis ça va porter. Je ne sais plus combien d'emplois, là, on parlait de quelques dizaines, là, je ne sais plus si c'est 60 ou...
OK, mais quand même...
70 emplois, plus les existants. Fait qu'on se ramasse avec une serre de peut-être quoi, éventuellement 200 employés et plus.
Non, puis c'est un beau modèle, je trouve, parce que, tu sais, ils récupèrent, entre autres, la chaleur de l'usine pour se chauffer.
Il y a tout l'aspect traçabilité, tu sais, cocombe, là, s'il vient pas de l'extérieur du Québec, il fait toujours bien moins de kilométrage.
Clairement.
Moins de transport, ça brise moins route, moins d'émissions de gaz à effet de serre, tu sais, à bien des égards...
Oui, puis j'entendais une entrevue avec Luc Gibbons, là, le maire de Saint-Félicien, qui disait en plus, tu sais, eux, ils avaient investi, ils avaient prêté de l'argent à 2 millions, et là, ça va être remboursé plus rapidement parce que ça va bien. Fait que c'est positif parce que des fois, tu le sais, dans une municipalité...
Ah, il y a des risques.
T'as des risques, mais tu veux investir, tu veux être stimulant, puis quand ça fonctionne, ben écoute, on a le droit de se dire bravo aussi.
Tout à fait. Fait que je trouve ça important de prendre un moment dans cette émission-ci pour souligner des bons coups et des bonnes nouvelles. Parce qu'on les connaît, les problèmes, là. Tu sais, la démographie, le manque de main-d'œuvre, la diversification économique. Ça fait des années qu'on nous parle de ça, puis je veux pas minimiser ça. Mais à un moment donné, là, faut en sortir un peu, puis faut avoir un discours positif aussi.
Ouais. Je veux parler, moi, on va aller dans du côté de la culture d'un autre success story qui se nomme Sébastien Pilote, réalisateur qui fait ses films dans la région ici, qui est très dynamique, porteur de projets culturels importants, qui a fait le tour du monde avec ses films. Et là, il va, on le sait depuis un bout, il va son prochain film, Maria Chapdelaine, qu'il va faire au Lac-Saint-Jean. Il a fait un appel d'ailleurs, si vous voulez être figurant, vous pouvez appliquer, aller passer des auditions pour être figurant. Mais c'est très dynamisant aussi pour un secteur comme ici, où on voit pas souvent ça, mais pas à Montréal ou à New York, où des tournages de cinéma, il y en a 40 par jour. Là.
Ouais.
Donc, C'est intéressant pour la population de voir tout le fonctionnement. Et lui, il est fier de où il vient et il nous démontre...
Il tient aussi de filmer en région. Ouais. De...
Il nous démontre que le cinéma, il peut se faire ici en région, puis du cinéma de grande qualité.
Puis en plus, c'est qu'on se rappellera, à l'époque du film Le Vendeur, il y avait une partie du film qui était tournée à Dolbeau-Mistassini. Mm-hmm. Mais là, c'est 100%. Je veux dire, l'équipe va être installée du côté de Saint-Félicien. On parle de Robert Val, Saint-Félicien, Normandin, Val-Jalbert. Ouais. Et là, on parle d'une production de 7 millions. Là, à l'échelle québécoise, là, 7 millions, c'est important.
C'est beaucoup d'argent.
C'est important. Puis là, en plus, le sujet, c'est un thème qui moi, vient me chercher. Tu sais, à quelque part, c'est identitaire, là. C'est le sentiment d'appartenance.
C'est ce roman-là qui a mis le lac Saint-Jean sur la carte du monde, d'un. On en parlait, entre autres, la semaine dernière, toute la problématique avec le musée Louis-Aymon, comment l'amener au centre-ville de Péribon. Non, mais tu sais, c'est très dynamisant et de remettre cette œuvre-là qui est majeure pour le Québec au goût du jour, moi, je trouve que c'est...
Puis c'est pas la première fois. Hein. Il y avait eu, avec Carole Laure, le film de... le producteur...
Gilles
Carle. Et certainement une autre version avant. Mais en tout cas, là, bien hâte de voir au goût du jour, puis t'en parlais la dernière fois qu'on a discuté ensemble sur ce plateau, la qualité de l'image, hein, Sébastien, la qualité photo, là.
Ah, la direction
photo. Les paysages
photo,
sont toujours, magnifiques. Ouais. Moi, je me rappelle, entre autres, là, dans
le démantèlement.
Le démantèlement avec les collines à Saint-Cœur-de-Marie et tout ça, c'est, avec le soleil, c'était magnifique.
Oui, c'est magnifique. Fait que bravo aussi, Sébastien Pilote, pour les beaux projets. Continue de nous rendre fiers de notre région et nous, on va être fiers de ton travail.
Voilà.
J'en suis certain. Bon, on va rentrer dans... un dernier petit sujet au niveau du lac Saint-Jean. On a un criant besoin de familles d'accueil au lac Saint-Jean.
Oui, absolument.
Pour les enfants, pour des personnes en difficulté. Donc, vous pouvez, si vous désirez devenir famille d'accueil, on a besoin de gens pour accueillir des personnes qui ont des besoins. Et ça, c'est criant dans au lac Saint-Jean. Là, je ne sais pas si tu as des commentaires là-dessus.
Ben, j'ai vu la nouvelle, mais dans mon entourage, je sais qu'il y a un couple qui est famille d'accueil depuis peu. Et c'est toute une implication. C'est tout un dévouement. Puis, je pense qu'ils vivent une belle histoire. Tu sais, au-delà des fois de ce qu'on a pu entendre, on s'attache des fois, mais là, l'enfant doit quitter, retourner dans sa famille biologique ou pas, mais je veux pas embarquer là-dedans. Mais ce que je comprends du cas, moi, que je connais, c'est que c'est une belle histoire, puis je vois le travail qu'ils font, puis ils contribuent vraiment positivement, puis l'enfant en question, je pense qu'il est bien chanceux.
Ouais.
Sans connaître tous les détails, parce que je ne veux pas tous les connaître non plus. Il y a tout un aspect confidentialité qui va avec ça aussi.
Oui, oui. Hein.
Mais ce que je comprends, c'est que l'enfant va être bien chanceux. Puis c'est un don de soi. C'est pas d'abord, les gens font pas ça pour l'argent. Même si tu as une petite compensation pour les frais de subsistance, etc. Après ça, l'autre affaire, c'est que c'est un processus qui est assez compliqué hein, pour se qualifier. Beaucoup de rencontres.
Oui, il faut être préparé.
Je fais une enquête fiscale, etc. C'est assez large, c'est assez long comme processus. C'est lourd. En même temps, on a-tu d'autres choix? Là, on parle de la vie d'un enfant. Je veux dire, on peut pas prendre le premier du bord. Il faut que ça soit un processus sérieux. Là,
puis quand il y a un drame qui arrive, là, tout le monde est pâmé puis dit « Ah, ben là, on devrait faire quelque chose. » Mais vous pouvez faire quelque chose. Ouais. Vous pouvez aider la communauté. T'sais.
Puis pour les drames dont on entend parler, ben on oublie qu'il y a des histoires bien positives aussi. C'est pas comme si tout le réseau était un échec, là, la DPJ. Il faut faire attention. Là,
non, puis c'est complexe. Hein. J'allais dire, il joue avec des êtres humains, mais il joue pas, là, mais il essaye d'aider. Moi, je pense que même si des fois, on doit avouer que ça fonctionne pas toujours bien, mais l'intention est toujours bonne d'aider les gens. Hein.
Puis tu sais, il faut bien penser que l'enfant qui arrive à DPJ, tu sais, il y a eu des rencontres avant, il y a eu des coachs familiales, des médiations, que ce soit à l'école, en milieu de garde, avec le CLSC, il y a eu des démarches, là, bien souvent, là.
Ouais.
C'est pas le premier recours, là, de séparer l'enfant de sa famille. Mais quand t'en arrives là, c'est parce que la problématique, elle est sévère.
Ouais.
Puis le défi est grand. Tu sais, il faut pas oublier ça, là. Tu sais, c'est pas si simple que ça, là. Gérer la vie des enfants, puis de s'assurer...
Ils l'ont pas eu facile, là.
Ils l'ont pas eu facile, puis de s'assurer qu'ils... Comment tu disais, Dan Bigra, des écorchés vifs, là, ouais. Tu sais, puis d'essayer les remettre, entre guillemets, sur le droit chemin. Je vais dire ça de même, une expression que j'aime plus ou moins, mais en tout cas...
Ça fait un peu religion.
Oui, oui. Non, mais quand je dis droit chemin, parlons d'accompagnement puis de support.
Disons. Parfait. Là, on va s'en aller dans un sujet qui fait vibrer la région. C'est... tout le mouvement, je mets ça en guillemets, là, moi je crois pas que c'est un mouvement, mais je crois en ma région et toute l'implication de GNL Québec qui veulent venir s'installer ici. Et j'imagine que des fois ils doivent être découragés parce que ils semblent pas convaincre tant que ça. D'ailleurs, je crois en ma région, moi je considère que c'est un échec. Là.
Oui, ça fait patate. Ouais. Ça fait patate parce que j'écoutais une analyse qui disait que je crois en ma région, ils ont tellement voulu ratisser large que finalement, ça a pas touché grand monde.
Non, puis on les voit pas. Ils sont où dans les débats publics? Ils sont pas là, puis je le sais pourquoi. C'est parce qu'eux, ils fonctionnent avec des lobbyistes. Ils ont des entrées directes au bureau du maire, au bureau des députés, etc. Fait qu'ils ont pas besoin d'être dans l'espace public. Mais l'objectif, je crois, à la base, c'était de faire un mouvement, de rassembler des gens qui croient à ça. Puis on s'aperçoit que les gens croient à leur région, mais croient pas nécessairement à « je crois à ma région ».
Mais dans ce genre d'histoire-là, tu sais, on va toujours entendre davantage les opposants. Parce que, surtout quand t'as un groupe qui se mobilise puis qui occupe l'espace médiatique, en même temps, je serais pas prêt à dire qu'on entend seulement les opposants. Je pense que, en tout cas, moi, pour regarder les médias tous les jours, il me semble que je vois des gens qui sont en appui ou en défaveur, que ce soit via les lettres d'opinion. J'ai pas l'impression qu'on entend seulement un côté de la médaille, là. Moi, j'ai l'impression que c'est bien équilibré, somme toute. Parce que quand tu parles aux opposants, ils vont dire qu'on entend juste le promoteur. Si tu parles à ceux qui sont pour, ils vont dire qu'on entend juste ceux qui sont contre. C'est pas vrai, là. Moi, je pense que la vérité est entre les deux, là. Ouh. Puis, tu sais... Puis ça fait ressortir un élément dont j'ai entendu parler. Rappelez-vous, à l'époque, les conférences régionales des élus.
Oui.
Où tu avais des élus, des représentants de la société civile.
Ça manque, ça.
Ben, on en a un exemple, là. Là, je pense que... c'est certain que la table régionale des élus, comme on la connaît présentement, ça peut fonctionner dans le sens que si on prend 3-4 projets qui représentatifs du territoire régional, où on fait consensus, puis les maires, les préfets parlent en même temps, c'est correct. Moi, je remets pas ça en question. Mais on voit un peu les limites de ça, par exemple. Et les limites, ben, c'est ce que la CRI faisait, puis là, la CRI n'est plus là. Qu'est-ce qui arrivait si la CRI était là demain matin, là? Rappelons-nous, il y avait 23 personnes. Les élus étaient en majorité, mais il y avait représentants syndicaux du monde des affaires, milieu femmes, jeunes, environnement, il y avait, tu sais, et ça permettait d'avoir peut-être des approches nuancées, aller chercher certains consensus aussi. Et là, on l'a pas, ça. Là, on arrive à un moment donné, ça en vient qu'on parle même plus du projet.
Ben oui,
on en parle du projet, mais un peu indirectement. Là, on écrit comme de quoi qu'il n'aurait pas fallu là que GNL donne des fonds à l'UQAC pour faire une recherche. Là, l'UQAC répète en disant, oui, mais attendez, là, quand on ramasse des fonds pour faire une recherche, là, c'est encadré, il y a un comité d'éthique, t'es obligé, par exemple, de publier tes résultats. Là, c'est pas juste une commande comme ça, c'est plus compliqué que ça.
Ouais.
Là, Michel Roche en rajoute. Après ça, tu sais, je veux dire, là, on est dans une guerre, là, un peu un ping-pong, là, mais ça nous avance-tu vraiment sur le débat?
Parce qu'il n'y en a pas de débat. Quand est-ce qu'on va s'asseoir ensemble? Puis qu'on aura un débat sain entre la coalition Fior, GNL Québec, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Je veux dire...
Quand est-ce qu'on va l'avoir? Au BAP. C'est la seule façon. Parce que le BAP, là, les commissaires, ils sont neutres, ils sont impartiaux.
Hein? Techniquement.
Ben, je vois pas pourquoi ils seraient pas neutres et impartiaux. Moi, j'ai confiance aux institutions. Les gens qui siègent là, ils ont un CV long de même. C'est des spécialistes en environnement.
Oui, mais on se rappellera qu'il y a eu des histoires...
C'est intéressant parce que à l'époque, on a critiqué le BAP parce qu'il était... le monde des affaires, on critiquait souvent le BAP comme de quoi que c'est un obstacle au développement. Et là, ceux qui sont pour le projet veulent le BAP. Ceux qui sont contre le projet se méfient du BAP. Mais avant, ils aimaient bien gros le BAP. Là, c'est le monde à l'envers, là. Moi, je pense que il y a une seule place, là, dans le contexte actuel, là, il y a une seule place, puis c'est le BAP. Et là, à ce moment-là, tout le monde va pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Pas juste les promoteurs, pas juste les opposants. Mais moi, j'en appelle à ceux qui ont signé la lettre, là, les profs, les chargés de cours, les chercheurs. Reste pas dans votre bureau, dans votre tour d'ivoire. Allez assister au BAP. Si vous avez des études, des expériences que vous avez faites, ou si vous travaillez sur des projets qui peuvent être des alternatives, ça va être le temps là, d'y aller. Là. Puis ça va être le temps d'y présenter. Faites pas juste votre gérant d'estrade. Là. Ouais. Parce que je comprends bien qu'ils ont le droit de parler. Et ça, je me ravis de ça. Je voudrais surtout pas que l'université elle soit un lieu où on peut pas débattre puis qu'on peut pas parler. Mais là, il va falloir, comme on dit, que les bottines suivent les babines, là. C'est facile là, d'écrire une lettre dans le journal ou de commenter sur Facebook. Là. Ouais. Mais là, va falloir aller plus loin. Puis même, le promoteur explique un certain nombre de choses. Puis parfois, tu sais comment c'est, là, avec les médias, le clip qui dure 30 secondes, c'est pas vrai qu'on peut tout dire. Alors là, le promoteur va pouvoir dire ce qu'il a à dire, sans filtre, sans être interrompu. Et de l'autre côté, les opposants vont pouvoir faire la même chose. Après ça, ils vont être contre-interrogés, toutes sortes de spécialistes. Puis à la fin là, de tout ça, là, ben là, il va avoir un rapport.
Oui, c'est ça.
Puis c'est là qu'on va avoir le vrai portrait. Parce que sinon, je ne vois pas parce qu'on n'est pas capable de débattre.
Mais en même temps, le gouvernement a refusé qu'on fasse un BAP global sur de l'extraction à la sortie
c'est
du
vrai.
Bateau. Là.
C'est vrai.
Ça veut dire que le portrait du BAP va être aussi...
Ben, il va avoir deux BAP, là.
Ouais,
tu vas avoir deux portraits, là. Tu prendras le premier livre, le premier rapport, puis le deuxième rapport, tu mettras un au-dessus
de l'autre. Oui, mais ça a une incidence commune.
Mais regarde... Prenons par exemple cet argument-là de la globalité.
Ouais.
On dit souvent l'environnement, penser global, agir local. Donc, on veut agir globalement pour la lutte au changement climatique, diminuer les effets de serre. Alors ça, c'est un argument de poids pour les écologistes. Mais cet argument-là, le promoteur, il l'évoque quand il dit « je vais tenter de remplacer du mazout, du pétrole lourd par le gaz naturel ». On est dans un argument de globalité, mais là, ça fait pas, là.
Bien, ça fait pas parce que c'est très 20e siècle, là. C'est très 20e siècle, là, le pétrole, là.
Pas nécessairement. Ben oui, je veux remplacer le pétrole, mais le gaz naturel, c'est pas du pétrole, là. C'est-à-dire, comme énergie fossile, t'as des catégories.
Je le sais.
Puis t'as le pétrole, le charbon, et là, t'as le gaz naturel. Puis même dans le gaz naturel, t'as des catégories. Une chose est certaine, c'est que dans toutes les énergies fossiles, la moins pire, c'est pas un idéal, là. La moins pire, c'est le gaz naturel.
Ouais. Mais c'est...
Un coup qu'on a dit ça...
Mais ça fait une vision d'avenir à court terme, pas d'avenir à long terme.
Mais la transition, est-ce qu'elle est à court terme?
La transition, il faut qu'elle se fasse maintenant, il ne faut pas
absolument.
Qu'elle se fasse dans 50 ans.
Absolument, là. Sauf que demain matin, là, même si tu voulais faire plus d'éoliennes et plus de panneaux solaires, ça demande des productions énergétiques, une production énergétique que les énergies renouvelables ne sont pas capables de produire. Tu auras besoin d'énergie fossile.
Non, parce que ça fait 50 ans qu'on attend avant de poser des actions.
Mais moi, je pense que le GNL, avec son projet, c'est un début de solution, mais c'est pas la solution. Mmh. Puis je pense que sur ce projet-là, il faut pas s'arrêter en chemin. En fait, et c'est ce que... Parce qu'hier, j'ai assisté à une conférence de Stéphane Tremblay à l'Hôtel de Ville. Évidemment, lui, il est pour GNL. Alors, il présente le point de vue de GNL. Ceci dit, Stéphane Tremblay, c'est quand même quelqu'un, quand on regarde sa feuille de route, qui était quand même beaucoup impliqué au niveau de l'environnement. Mais moi, ce que j'ai expliqué, j'ai dit, moi, il me semble qu'il manque une troisième voie. La troisième voie, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire si on est pour ou contre, mais il faut créer un espace où, OK, GNL, avec le plus de conditions possibles, là, OK, là, puis ayons pas peur de mettre la barre haute, mais à un moment donné, la vraie solution, ça serait de profiter des infrastructures pour mettre du biogaz à partir de résidus de la forêt.
Oui.
Et là,
on pourrait.
Mais c'est ça que GNL a donné comme mandat à l'UQAC pour développer une technologie pour capter, développer une molécule qui est la même que le gaz naturel, mais pour le faire à partir de résidus forestiers. Fait que là, quand on dit GNL a donné de l'argent à l'université, ouais, mais la raison pour laquelle ils nous ont donné, regardez, c'est quoi le projet, ça peut être porteur en maudit, puis ça peut créer des milliers d'emplois à Saint-Lac-Saint-Jean. Là, on va-tu tout jeter l'eau avec le bébé du bain? Tu sais, je veux dire, jeter le bébé avec l'eau du bain, j'ai inversé la patente. Mais ce que je veux dire, donc, c'est qu'il faut avoir une vision claire puis être capable de dire, OK, à court terme, puis là, à court terme, on parle de 2025, là, la mise en fonction, là, il n'y a pas, à ce que je sache, là, pendant les 5 prochaines années, il n'y a pas de gaz là qui va circuler. Mais il faut être capable de dire, je pense, qu'en 2025, c'est en fonction, et rapidement, 2030, Exemple, avoir un pourcentage de gaz qui va remplacer le gaz naturel, qu'il soit conventionnel ou extrait avec fracturation hydraulique, mais un gaz naturel qui va être fait à partir de résidus forestiers, 5 %, 10 %, 20 %. Et là, on va encore plus opérationnaliser la transition. Et moi, je pense qu'elle est là, là, la troisième voie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste prendre le GNL pour ce que c'est présentement, malgré toutes les précautions environnementales qu'ils vont prendre. Mais il faut aller plus loin. Puis poser des conditions. Puis ça, là, la région a un rôle à jouer là-dedans.
Ben
parce
oui.
que GNL, ils peuvent bien avoir tous les accommodements que tu veux. Bien, ça va prendre une mobilisation régionale pour dire « OK, là, mais nous autres, on bonifie votre projet, puis on va faire en sorte que ça prenne cette traque-là. » Moi, je pense que c'est à peu près la seule façon de rallier.
Je suis d'accord, là, il faut poser des conditions, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un certain aplaventrisme là, des décideurs politiques et économiques de face à l'investissement, l'économie, investissement. Et puis là, on pose pas de conditions. Au contraire, là, on va donner tout ce qu'on peut donner. On l'a vu avec l'hydroélectricité, on l'a vu avec à plein de niveaux. Là.
Peut-être qu'on pourrait faire de quoi, Pierre? On a parlé du BAP tantôt.
Ouais.
Moi puis toi, on est des citoyens. Moi, je suis pas un spécialiste de questions énergétiques. Là. Je suis pas chimiste non plus. Mais peut-être
pourtant,
qu'on pourrait...
Pourtant, c'est beau, hein, Sarreau?
Oui. Peut-être qu'on pourrait aller au BAP, moi puis toi, puis déposer un mémoire là, qui tient en une page ou deux, puis qui dit ce qu'on vient de dire là. Tu sais, c'est-à-dire avoir des conditions. Puis surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est que le BAP entende la possibilité de développer autre chose puis d'aller plus loin. Puis à ce moment-là, peut-être que ça pourrait faire partie de leurs recommandations puis que ça pourrait être repris par la suite.
Bien, clairement. Mais là, ça va prendre une pédagogie parce qu'en ce moment, c'est pas de ça qu'on vous parle. En ce moment, ce qu'on sait, c'est que c'est de la fracturation hydraulique qui est
absolument.
À l'autre bout du Canada, qui
absolument.
S'en vient dans les tuyaux, qui a des risques. Et puis, là, on parle pas des bélugas, puis on parle pas de la défiguration du fjord. Il y a plein d'aspects.
Oui.
Et là, à un moment donné, il va falloir avoir un débat sain. Et en ce moment, moi, je vois pas de débat sain. Premièrement, parce que ceux qui sont supposés dans le civil porter le projet, je crois, ma région, on les voit pas. Ça fait vraiment patate. De l'autre côté, les opposants sont très organisés, ils sont là, sont présents. Là, d'un côté, tu as les décideurs publics qui donnent même de l'argent pour en faire la promotion, de l'argent public. Moi, j'ai un peu de
mal avec ça. Ah, là, ça, c'est une autre histoire.
Parce
on a vu
là,
ce matin, promotion Saguenay, 42 000 $ en juin 2019. On comprend bien la mission de promotion Saguenay qui est d'accompagner les promoteurs puis faire du démarchage, puis attirer des investissements. Mais règle générale, tu sais, dans un sujet comme celui-là, il aurait peut-être fallu qu'il se... Je dirais pas qu'ils se mettent un peu en retrait ou que... Comment je pourrais dire ça? Puis là, en plus, c'est que là, t'as du municipal qui gère Promotion Saguenay.
Mmh.
Puis Promotion Saguenay, c'est dans leur mission.
Puis là,
tu sais, Promotion Saguenay, ils ont peut-être à travailler avec GNL. Si c'est pour expliquer, bon, ben voici les terrains, voici les conditions, le type d'infrastructure. Mais est-ce qu'ils ont à travailler sur l'acceptabilité sociale? C'est peut-être bien plus le rôle de GNL. Puis de toute façon, ils le font déjà, GNL.
Mais oui,
ils font
GNL,
déjà une
ils
campagne.
Déjà, je pense
ils font déjà des publicités.
Oui.
C'est ça qu'ils essayent de faire.
Ils ont 24 lobbyistes d'engager. Ils n'ont pas besoin de la ville de Saguenay d'engager des lobbyistes en plus.
Absolument.
Avec
c'est dans leur ressort.
Mais oui, mais oui.
C'est pas Promotion Saguenay qui doit travailler sur l'acceptabilité sociale. Maintenant, est-ce qu'on prend une pause?
Oui, on va prendre une pause. Parce que c'est un beau sujet, hein, on le voit.
On est enflammé,
on pose des questions. On n'a pas toutes les réponses, absolument pas, mais ça amène une réflexion. Puis je pense qu'on a eu un débat simple, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en société. Hey, on se retrouve dans quelques minutes.
Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là.
Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si t'es fait pour ça.
La formation est vraiment complète.
Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion.
Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne.
J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants.
C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants.
Tout un écolier à partir de l'UQAM.
L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.
Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça, ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express.
Est-ce que t'as faim? Qu'est-ce que tu veux avoir?
Une banane.
Tu veux une banane?
Oui.
Un petit morceau de banane.
Beaucoup, beaucoup.
Beaucoup, beaucoup?
Oui. Beaucoup,
beaucoup. Qu'est-ce que tu veux?
Une banane.
Encore une banane?
On est de retour de la pause. Hein? Merci d'être toujours avec nous. On continue l'actualité. On va aller à un niveau plus québécois-canadien et on va sûrement se rendre aussi aux États-Unis.
Peut-être la Lune.
Peut-être la Lune un jour. Fin des commissions scolaires. Un autre gros dossier, une promesse de l'ADQ qui a été repris par la CAQ. Maintenant, ça a été fait. On a passé cette loi-là sous le baillon. Ce sera maintenant des centres de services. Il y a des gens qui sont contents, des gens qui sont pas contents. Quelle est ton analyse de globalement là, de ce projet-là?
Ben, moi, je dirais il y a la forme puis il y a le fond.
Okay? Okay.
Sur la forme, d'avoir un quatrième baryon en 8 mois, moi, je trouve ça déplorable. Et sur la forme, ça a été un projet de loi. Tu sais, au départ, tu dis les élections scolaires, les gens participent pas, on va remédier à ça. Mais non, c'est un espèce de projet mammouth avec plein d'affaires là-dedans.
Mais avant, là, pour ceux qui comprennent pas, c'est quoi le baryon? Puis c'est-tu légal de faire ça? Parce que chaque fois que quelqu'un lève le baryon, on fait comme « Ah, c'est pas légitime, ça marche pas, vous êtes... » Mais tu sais, toutes les parties...
Le baryon, c'est, dans le fond, si je résume, c'est le fait d'accélérer les travaux parlementaires,
donc de limiter les débats
de ta majorité pour fermer le dossier puis passer à autre chose. Et ça fait que ces débats-là vont être intensifiés, ça va se dérouler même parfois la nuit, très tard le soir ou la nuit, puis t'as beau accélérer les débats, faire les interventions que tu veux en chambre, ben le gouvernement profite de sa majorité pour passer sa loi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il ne tient plus compte de l'opposition. Dans la justification que François Legault a fait, il a dit, écoutez, ça faisait une centaine d'heures qu'on parlait, il y avait de l'obstruction, c'est toujours ce qu'un gouvernement a dit quand il utilise le baryon. Mais on a vérifié, puis c'est pas 100 heures, c'est à 58 heures.
Okay.
Puis d'abord, je pense que plusieurs modifications d'article par article ont été apportées par le ministre lui-même. Fait que à la limite, je te dirais que c'est même lui qui a fait que ça prenait plus de temps. Puis jusqu'à la dernière minute, on a ajouté des articles de loi, des amendements qui ont une grande importance, qui ont une conséquence. Alors sur la forme là, moi pour moi, ça n'a pas la note de passage parce que Et en fait, ça nous fait penser à la réforme Barrette, mais en éducation, où on centralise, où on est dans une guerre de structure. Et il y a autre chose qui va avec ça, là, c'est-à-dire les centres de services vont remplacer les commissions scolaires. Il n'y aura plus d'élections scolaires, mais des membres de conseil d'administration, 5 parents, 5 professionnels... enseignants, 5 ensuite représentants socio-économiques. Alors là, il va tout avoir un jeu de nomination, d'élection, etc. Et là, on apprenait que si jamais, par exemple, une commission scolaire veut construire une école et qu'il y a un litige avec un terrain, on peut prendre le terrain sans donner aucune compensation à la municipalité. Là, je vous rappelle, ce sont des gens non élus qui prennent un terrain qui était géré par des gens élus. T'sais, moi, je vois un problème par rapport à ça. Ça s'est fait sans aucune consultation auprès du monde municipal, comme l'UMQ, la FQM, qui sont les deux principales organisations. Après ça, il y a aussi le fait qu'il se dessine d'autres choses. Là, on veut centraliser les achats pour le gouvernement. Et ça, je vois pas, mais vraiment pas en quoi ça peut aider les régions. Parce que une commission scolaire, avant, pouvait acheter ses fournitures sur son territoire. Il y a absolument rien qui garantit ça. Donc, à ce moment-là, on peut penser que pour certaines petites entreprises ou des entreprises qui distribuent moins, ça va être plus difficile de se qualifier. Donc, il y a peut-être des contrats qui vont se perdre. Bon, on voit un peu là.
Oui.
Puis tout ça m'amène à l'idée que c'est un gouvernement qui a été élu à cause des régions. Et je me questionne sur le bilan. Parce que vous allez me dire, ouais, mais les prochaines élections, c'est pas tout de suite. Ouais, mais attendez, il faut se questionner quand même. Là. Parce que là, à part quelques mesurettes à gauche et à droite, quatre subventions, là, ça va être quoi le bilan de ce gouvernement-là pour les régions? Parce qu'il a été critiqué pour son approche du programme de l'expérience québécoise. On a vu les cégeps de régions, notamment, dire, hey, wow, touche pas à ça.
Ouais, ouais.
Les commissions scolaires où se concentralisent.
Ouais.
Moi, je regardais combien de fois le gouvernement de la CAQ, du temps qu'il était dans l'opposition, a critiqué. Je ne sais pas combien de fois, Dr Barrette, sa réforme de la santé, on s'est donné un objectif, hein, à l'urgence, pas plus que 90 minutes. On est complètement à côté.
Mm-hmm.
Et finalement, la ministre, elle reconnaît, même si elle vient du domaine de la santé, reconnaît que c'est plus difficile que c'était. Mais ce que je trouve terrible, c'est qu'on fait encore des promesses là-dessus puis des campagnes là-dessus quand on sait que c'est tout un morceau là, à gérer. Et là, je vous ai pas parlé des milieux humides, hein, une loi qui se fait déposer. Parce que moi, les gens que je connais dans le municipal, là, ils savent c'est quoi un milieu humide, puis ils comprennent le rôle que ça joue, puis ils savent que c'est important. Mais quand tu arrives avec une carte qui est établie, qui est adoptée, ou si tu regardes, par exemple, le Boom Sassini, on est tous dans le milieu humide, fait que là, c'est quoi, on met une cloche de verre, on fait plus rien?
Ouais.
Ça veut dire qu'il y a eu un manque de consultation encore là. Est-ce qu'il pourrait y avoir des gradations de milieux humides, des compensations, des ci, des ça pour...
Des solutions.
Alors, on est dans la CAQ, je mets mes culottes, puis go, on décide.
On réalise nos promesses.
Ah, oui, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, puis ça va bien. Sauf que là, ce que je vois aussi, c'est que la CAQ est en train d'investir son capital politique. Parce que les deux principaux partis qui étaient les libéraux et le PQ, n'ont pas de chef. Puis QS, malgré le fait qu'ils ont deux co-porte-parole, malgré que de leur côté, il n'y a pas de contestation de quoi que ce soit là, à l'interne, ben on voit qu'ils ont un peu de difficulté quand même à faire contrepoids au gouvernement. Ce qui fait que là, le gouvernement a beau jeu, il est à 51% dans les sondages, notamment chez les francophones, un peu plus, tout va bien. Mais là, à un moment donné, c'est ça. Là, on gaspille nos cartouches, là, notre capital politique. Puis à un moment donné, ils pourront plus faire ça. Puis quand les forces en présence vont avoir des chefs, puis que la vraie élection
la vraie
va commencer à se préparer,
ça
va être différent. Alors, moi, c'est un peu là que j'en ai contre la CAQ. On est, malgré le fait que ça a été élu par les régions, on est encore dans des élans de centralisation. On veut aller vite, on n'écoute pas les experts. On parlait, moi et toi, à un moment là, du troisième lien. Et là, ça va coûter cher, cette affaire-là. Il y a des experts qui disent, pas sûr.
De toute façon, toutes les expertises le démontrent. Plus tu vas construire de routes, plus il va y avoir d'auto, donc ça ne réglera pas le problème. Il y a des expériences partout dans le monde qui l'ont démontré.
Ça va le soulager pendant 5 ans, puis après, ça va recommencer. Je veux dire, ça vaut-tu 3 milliards, ça, soulager pendant 5 ans?
À Houston, ils ont passé d'un 4 voies à un 8 voies. Ça a pris 3 ans, c'était 2 fois plus bouché.
À part encourager l'étalement urbain.
Bien, c'est ça.
Donc, c'est là que j'en ai un peu, là. Puis je prends la réforme des commissions scolaires, mais je crois que ça fait ressortir autre chose. Puis la lune de miel, rappelons-nous même, la lune de miel du gouvernement Trudeau, elle a duré longtemps. Hein?
Mm.
Puis on a vu quand même dans les 6 derniers mois où tout ça...
C'est une éternité, 6 mois en politique.
C'est ça. Parizeau disait, un mois en éternité, c'est long, 6 mois, c'est une éternité.
Ouais. Enfin,
et là, ça m'amène à te parler, donc, j'ai parlé de la CAQ, mais on va quand même parler un peu de ce qui se passe au Parti québécois, parce que, tranquille, je trouve, au niveau de la course à chefferie des libéraux,
Bien, très tranquille.
Très tranquille. On a deux candidats déjà d'annoncer. Je ne pense pas qu'il va en avoir d'autres. Là. Ça semble être réglé pour eux. Et pour le Parti québécois, présentement, depuis la dernière fois, on s'en est parlé, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Sinon, que c'est officiel maintenant. Sylvain Gaudreau, on le savait. Plamondon, on le savait. Bastien, c'est annoncé, c'est officiel. Ça, on s'en doutait, mais ce n'était pas officiel la dernière fois.
Guy Nantel, on
Guy Nantel est censé donner. Excusez-moi, je me gratte un nez. Guy Nantel est censé s'annoncer pour la Saint-Valentin. Alors, il nous reste deux jours, deux, trois jours. Alors, on serait censé avoir une réponse définitive de sa part. Et on se rappellera aussi que depuis qu'on s'est vus, il y a deux semaines, Stephen Enfield, qui était pressenti, oui, a donné son appui à Sylvain Gaudreau. Ça, ça a certainement dû être apprécié dans le camp Gaudreau. Là, ça peut donner un élan. Et ce qu'on voit aussi, c'est de ce temps-ci, au niveau des chroniqueurs politiques, bien, on prend, je dirais pas qu'on prend position, mais on commente. Puis, bien, oui, dans certains cas, on peut dire qu'on prend position. Oui.
Claude Villeneuve a clairement pris position. Là.
Claude Villeneuve, hein? Cette semaine avec son texte Force tranquille, hein, qui dit que, tu sais, dans le fond, là, je le paraphrase, Sylvain Gaudreau, il n'est pas dans le flat-flat, un gars de résultat, un gars de dossier, sérieux, étape par étape, il gagne, c'est
un gars de terrain aussi.
Un gars de terrain. Et il faisait ressortir un élément que je trouvais très intéressant. Sylvain a parlé d'environnement puis de solidarité sociale avant d'être député, puis depuis qu'il est député, bien avant d'être candidat à chefferie. Bon,
ouais.
Alors, quand je vois ça, et que je mets en parallèle la sortie de PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui dit, dans le fond, qui critiquait la position des dernières années du Parti québécois en matière d'environnement, même si moi, je trouve que c'était vraiment une position très étoffée, là, qui avait l'appui d'ailleurs de plein de groupes environnementaux. Alors, c'était, je crois, une façon pour lui de donner une jambette à Sylvain Gaudreau, qui était le porte-parole en matière d'environnement, d'énergie.
Mm-hmm.
Et là, je me rappelle très bien de Paul Saint-Pierre Plamondon de dire « faut regrouper les gens, faut faire de la politique autrement, etc. » Mais là, je trouvais que ça sonnait faux dans son approche. Puis je trouvais qu'il en disant ça, il continue à discréditer sa formation politique. C'est comme s'il tirait dans le fond de la chaloupe plutôt que d'emmener ça autrement. En tout cas, moi, je trouvais que c'était cheap shot. Et j'en reviens avec Michel David du Devoir qui a écrit un texte quand même intéressant sur Frédéric Bastien. Le texte, c'est le pitbull. Et il disait qu'en gros, comme un pitbull, il lâche pas le morceau. Lui, il donne trois exemples concrets. On sait que Frédéric Bastien a rédigé La bataille de Londres, où ça a été un travail colossal de recherche, d'archives, etc., où ce qui a prouvé qu'il y avait eu connivence entre l'exécutif et le judiciaire et que ça a joué un rôle dans l'adoption de la Charte de 1982, qui, comme on le sait, comporte des articles qui vont de plein fouet à l'encontre de certains consensus québécois au niveau linguistique, culturel notamment. L'autre affaire, c'est qu'il parlait aussi de la dénonciation qu'a fait les juges qui allaient prononcer des conférences pour un organisme qui conteste la loi 21, puis c'est ces mêmes juges-là qui ensuite vont écouter la cause, qui est complètement un manque d'éthique incroyable, que je peux pas croire, moi, que... Puis finalement, les juges, à cause de ces pressions, les sorties médiatiques ont annulé leur participation. Troisièmement, on a vu que la Commission scolaire de Montréal a reçu des fonds d'un programme fédéral pour contester la loi 21. Quand Justin Trudeau dit qu'il n'était pas au courant, qu'il n'y a pas vraiment d'emprise là-dessus, moi, j'ai tendance à le croire parce que ça semblait être un truc purement administratif. Mais est-ce que c'est normal que le fédéral, par la porte d'en arrière, que ce soit... De n'importe quelle façon, je veux dire, la commission scolaire de Montréal, là, et finalement, ils ont renoncé à ces argents.
Ouais.
Mais ça, c'est encore à cause de Bastien.
Ouais, ouais.
Parce que lui, il a sorti les articles de loi qui pouvaient remettre en question ça. Donc, il y a l'étiquette Bulldog. Puis, quand il a annoncé sa candidature, il a fait ressortir principalement deux thèmes. Celui, de la culture, évidemment, de laïcité, mais aussi celui de la Constitution, l'indépendance. Et son approche, c'est pas d'y aller nécessairement par référendum, c'est plutôt de se baser sur une obligation légale que le fédéral a de négocier pour aller chercher de nouveaux pouvoirs. Et ce qu'on disait, c'est que dans la salle, il n'y avait pas beaucoup de jeunes et il n'a jamais parlé d'environnement. Évidemment, il aura la chance d'en parler. Écoute, ça ne fait qu'en commencer, là, cette course-là.
Mais ça
l'a été... Michel David a identifié cet élément-là. Je reviens à Sylvain Gaudreau qui, autant comme Saint-Pierre Plamondon, d'une façon un peu différente, mais s'engage à quelque part à tenir un référendum dans le premier mandat, sauf que Sylvain Gaudreau met des conditions un peu différentes, ce qui n'est pas le cas de Bastien. Puis je vois Godreau qui parle beaucoup d'environnement aussi. Bref, ce que je vois, moi, c'est que Godreau est en train d'essayer de faire le pont entre les positions de tout un chacun, là. Puis à quelque part, c'est ça, un chef.
C'est rassembleur.
Il faut réussir. Tu sais, la personne qui va être élue chef, il faut bien comprendre qu'il va falloir qu'elle ait pigé des idées dans le programme des autres si tu veux rassembler. C'est parce que sinon, tu te divises, puis bon. Alors, c'est ça que j'avais à dire par rapport à Chefferie à suivre. Puis en passant, le 27 février, au Coureur des bois, Sylvain Godreau va être à Dolbeau-Mistassini. J'en profite pour vous inviter.
Course à Chefferie du Parti conservateur du Canada. Il me semble que depuis que tout le monde a dit qu'il se présentait pas, il se passe plus rien.
Ben oui, Ronan Rowe, Jean Charest. Mais là, il n'y avait pas M. Baird, John Baird, qui, le nom... Ce qui viendrait mettre un peu de piquant à la course, hein, parce que là, c'est, ça risque d'être tranquille. Il va rester seulement Peter McKay. Et des gens que je connais pas. Et vous savez qu'ils doivent ramasser 300 000 $ les gens, les candidats pour être... Bon, évidemment, c'est d'un océan à l'autre. C'est, on s'entend, c'est pas le même genre de campagne qu'à l'échelle québécoise. Mais juste pour comparer, le Parti québécois... pour les libéraux, je connais pas le chiffre, mais je sais que le Parti québécois, les candidats à la chefferie doivent faire un dépôt de 10 000 puis ensuite un dépôt de 15 000. On est assez loin du 300 000 exigé.
Je pense qu'ils voulaient éviter, comme la dernière courte, où il y a 400 candidats qui
Je crois qu'il y en avait 14 ou 16 en affaire de même. Va faire un débat, toi, à cette heure. C'est impossible.
Tout le monde dit une phrase et ça fait deux ans qu'on parle.
Et c'est aussi tranquille, là, du côté conservateur. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Un peu comme les libéraux. On peut voir parfois des prises d'opposition ici et là de certains candidats, mais évidemment, comme je disais, c'est encore tôt. Puis je pense que les libéraux, tant qu'à eux, vont élire leur chef, je pense, un mois là, avant le Parti québécois. Le Parti québécois a ciblé la date du 19 juin, donc ça risque d'être milieu fin mai pour les libéraux. Ça a l'air de rien, là, mais là, on arrive à mi-février. Ouais. Ça va vite.
Ça va très, 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 très vite. On va voir tout ça. Puis je ne suis pas nécessairement un grand fan de Jean Charest, mais je pense qu'il avait été dans la course au conservateur, ça aurait levé un peu cette course-là.
Bien, c'est carrément... Écoute, il voulait y aller. Il y a des vidéos qui ont circulé, comme de quoi qu'il était prêt. Il y avait son slogan, tout. Ce qui l'a fait reculer, on le sait, là. Il y a un éléphant dans la pièce, là.
Oui, clairement. Tu veux me parler de fonds de pension? As-tu des problèmes?
Non, moi, ça va. Comme professeur, ça a l'air que je suis gras dur. Ceci dit, je voulais simplement faire allusion à un article que j'ai lu. Vous savez, là, quand il y a des restructurations financières, ça arrive que ça se fait sur le dos des retraités. Mm-hmm. On a vécu ça dernièrement avec le Capital Media. Mm-hmm. Même si les retraités ont appuyé le projet dans la nouvelle formule, je pense que leur cotisation baisse de 30 % quelque chose comme ça. Pas leur cotisation, mais leur revenu de retraite. Mais ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et il y a des gens qui sont impliqués à ce niveau, notamment des retraités de Sears Canada, qui disent on devrait avoir une espèce d'assurance. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en Ontario, il y a quelque chose d'équivalent qui existe, c'est qu'un employeur va donner 41 et 25 par année par employé.
Okay.
Grâce à ça, évidemment, si je vous dis 41 et 25, c'est pas beaucoup d'argent. Mais c'est sûr que si t'as 3000 emplois, bon, gros, ça dépend. Mais grâce à ça, il y a 835 000 retraités qui en profitent en Ontario. Donc, c'est comme une espèce de caisse d'assurance pour pallier les différences. Par exemple, un retraité de Sears Canada au Québec, il est amputé de 27-28 %, tandis qu'en Ontario, le même retraité va toucher jusqu'à 93 % des sommes qui étaient supposées. C'est pas pareil.
Non.
Alors, moi, je comprends les gens, là, les retraités, qui disent, hey, attends un peu, là, on absorbe le coût, puis t'as économisé. Puis quelqu'un disait, tu sais, moi, j'ai travaillé 25-30 ans. Quand j'ai signé, c'était pour la vie. Finalement, il dit, j'avais peut-être mal lu, c'était pour la vie de l'entreprise. Quelqu'un disait ça dans le journal. Je trouvais ça un peu drôle, malgré tout. Et le gouvernement de la CAQ a été interpellé, notamment par les partis d'opposition, Sylvain Godreau, pour revenir à lui. Et le gouvernement de la CAQ, trois fois plutôt qu'une, ferme la porte en disant que, ben, si on fait ça, c'est un fardeau fiscal supplémentaire pour les entreprises et sont déjà suffisamment imposés. Par contre, je sais pas, parce qu'il me semble qu'à une certaine époque, le fardeau fiscal était séparé en environ 50-50 entreprises et contribuables, payeurs de taxes, impôts. Maintenant, c'est plutôt 80-20 et on voit au profit des entreprises. Puis la compétition mondiale fait que, règle générale, on n'est pas dans augmentons les impôts des sociétés, encore moins des PME, c'est plutôt le contraire. Et je pense que le Québec se compare très avantageusement par rapport à ça.
OK, maintenant, je voudrais qu'on parle brièvement de ce qui se passe avec les trains, parce que, bon, vous savez, Trans Mountain, bon, c'est un pipeline qu'on a acheté, qui va coûter pas 7, mais 12 milliards à mettre en fonction. Il y a eu des contestations judiciaires de la part des Premières Nations dans l'Ouest canadien. plein de raisons. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une mobilisation des communautés autochtones dans l'est du Québec qui vont bloquer. Entre autres, ça fait peut-être presque une semaine que les trains sont bloqués à Montréal, dans la banlieue de Montréal, dans la banlieue nord de Montréal, ensuite pas banlieue nord, ben, banlieue sud. Je suis peut-être pas très bon en géographie. Ensuite, les lignes vers Toronto, Ottawa, etc. Et là, il y a une injonction. Et là, on sent que ça va brasser parce qu'on va devoir faire respecter l'injonction. Qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la police, est-ce qu'il y aura des violences? J'ai aucune idée. Je le souhaite pas. Puis ce que je trouve, c'est que tout ça, ça aide pas le débat parce qu'on a arrêté de parler de pourquoi.
Parce qu'on va être encore sur la forme plutôt que sur le fond.
Oui, puis...
Tout le monde va parler des Autochtones.
Oui.
Après ça, ils vont parler de désobéissance civile, puis de violence, puis d'économie, plutôt que de parler...
De pourquoi les...
C'est pourquoi qu'ils sont là.
Exactement.
Ouais.
C'est quoi ta position là-dessus, toi?
J'en ai pas parce que, pour être très honnête, j'ai moins suivi ce dossier-là. Je sais que tu l'as suivi plus que moi, mais il y a un endroit où je te rejoins, c'est le fait que, effectivement, il y a tout est en place là pour polariser puis tirer sur le messager plutôt que parler du message.
Oui, c'est ça. C'est que là, on règle pas de problème, on réfléchit pas à pourquoi. Là, ce dont on va parler, c'est des pertes économiques. C'est tout le temps ça, en fait, là, quand il y a des pertes économiques. Mais on parle pas des enjeux sociaux et de pourquoi ces gens-là. Parce que la seule manière que ces gens-là ont souvent de faire parler d'eux et d'amener de l'avant un débat, c'est de faire des gestes d'éclat qui vont toucher à l'économie. Parce que quand ton portefeuille est touché, là, tout le monde capote, là. Mais ces enjeux sociaux-là sont importants. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on voit que ça va aller en cours. Les communautés autochtones disent...
C'est tout ça relié à Turns Mountain.
Ben oui.
Turns Mountain, on le rappelle aux gens, qui va coûter deux fois plus cher maintenant que le promoteur et le gouvernement fédéral. Alors, ce qu'il dit, c'est que je développe le projet puis ça va tellement être rentable que je vais le revendre, je vais rentrer dans mon argent. On verra.
Ouais.
L'autre affaire, c'est que le gouvernement s'était fait dire par la Cour, refaites vos devoirs, reconsultez ce qu'ils ont fait et ce serait conforme. Alors là, c'est dans ce contexte-là que les gens bloquent. Alors là, jusqu'où aussi ils sont représentatifs du milieu? Est-ce que c'est un groupe autochtone ou si c'est un groupe qui représente tous les autochtones?
Parce que
je le sais pas. Là.
Non,
c'est un peu loin de nous. Là.
Oui, c'est ça. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont jamais cédé ces terres-là. Donc, techniquement, c'est pas des terres de la couronne. Tu sais, fait que, en tout cas...
Mais là, ça dépend. S'ils se fient sur la proclamation royale de 1763 pour dire ça, ça risque d'être difficile.
Ouais.
Ben, tu comprends ce que je veux dire?
Pour les Autochtones, c'est toujours
difficile.
Fait qu'on va suivre ce dossier-là. On aura sûrement plus de détails dans le courant des prochaines semaines. Dernier sujet important, on va s'en aller aux États-Unis. Ce sont les primaires démocrates qui ont lieu. On a eu l'Iowa il y a deux semaines. Et puis là, c'était le New Hampshire.
En fait, ça commence à être intéressant.
Ça commence. Là, on a vu Bernie Sanders qui a remporté le New Hampshire hier.
Là, je me suis préparé des chiffres.
Parfait, j'aime ça.
Alors, sur la ligne de départ, il y avait 28 candidats démocrates.
Ça n'a pas de bon sens.
Bon, finalement, je pense que pour ce qui est de la primaire d'hier au New Hampshire, il y en a eu 12 qui ont participé, puis à la fin, il y a une personne qui s'est retirée. Donc, on se ramasse quand même que Iowa, c'est fait, avec les nombreux cafouillages. New Hampshire, il en reste beaucoup, ça va aller jusqu'en juin. Et présentement, il reste 11 candidats. Ce qu'on a à retenir là-dessus, Sanders mène en vote populaire, mais pas en nombre de délégués. Parce que en Iowa, même s'il a gagné le vote populaire, c'est Pete Buttigieg.
J'ai aussi ce
très difficile. B-U-T-T-I-G-I-E-D, Buttigieg, un centriste qui l'a remporté. Alors, ce qui fait qu'au nombre de délégués, parce que vous savez, aux États-Unis, ce qui compte, c'est la course aux délégués, il y a 3979 délégués démocrates. Le chiffre magique, 1990. Alors, c'est le candidat ou candidate qui va atteindre 1990 délégués qui va gagner.
C'est Jean Leloup qui
pour l'instant, oui, Jean Leloup va être très
avec
heureux.
Avec sa chanson 1990.
On l'avait compris. Donc, pour l'instant, Pete Buttigieg a 23 délégués, Bernie Sanders 21. Bernie Sanders, écoutez, là, on est dans des luttes tellement serrées, là, 1% entre la première et la deuxième position. Puis, on voyait que, par exemple, au New Hampshire, la dernière fois, Bernie Sanders avait eu 60%, Hillary 40%. Mais il faut comprendre qu'il y avait deux candidats. Il n'était pas 12, là. Sauf que la semaine prochaine, le 22 février, Nevada, crucial. Joe Biden a terminé quatrième en Iowa et cinquième hier.
Ouais.
Alors, il était même pas au New Hampshire hier pour un discours.
Il est en Caroline du Sud.
Il est déjà en Caroline du Sud. Donc, ce que ça nous dit, ça, c'est qu'il va miser beaucoup sur ce qui s'en vient. Si jamais il gagne Il continue. S'il arrive deuxième, il pourrait peut-être s'accrocher, mais là, la prochaine va être excessivement importante. Parce qu'on parle d'élan. La raison pour laquelle ces primaires-là, les premières, même si c'est pas le nombre de délégués qui est important, c'est l'élan, c'est l'image, la perception que ça laisse. Puis ensuite, le 27 février, Caroline du Sud, le 3 mars, super mardi. Trois États. Alors ça, le super mardi, c'est toujours attendu. Et tout ça pour dire que, historiquement, un candidat présidentiel démocrate doit remporter une ou l'autre des deux premières. Sinon, il gagne pas. Il y a eu une seule exception avec Bill Clinton parce qu'il s'était pas présenté dans un des deux États parce que c'était un candidat du coin. Mais si on enlève ça, la personne qui va être retenue par les démocrates, si elle va nécessairement avoir gagné Iowa ou New Hampshire. Alors, si on suit la tendance historique, ça ne sera pas Joe Biden.
C'est surprenant parce qu'on parlait beaucoup avant ça d'Elizabeth Warren et Joe Biden, mais j'ai l'impression
Elizabeth Warren est troisième en nombre de délégués. Et là, ce qu'on a vu, c'est l'avancée de Amy Klobuchar. Je me demande si je ne suis pas parent avec de loin. Klobuchar, qui a 7 délégués, Joe Biden, 6.
Non, mais on dirait qu'il représente en fait la vieille garde des démocrates, puis que les gens sont tannés, ils veulent du changement, sauf ils veulent surtout battre.
Ouais. Sauf que quand il va arriver Nevada, Caroline du Sud, où il y a des populations afro-américaines, parce que là, il faut dire que les premiers, c'est très blanc. Là, il va y avoir des populations afro-américaines, hispanophones, là, ils risquent de faire beaucoup mieux Joe Biden. D'ailleurs, il y a des gens qui représentent des minorités qui disent, au lieu de faire les premiers États blancs, on devrait avoir des États en premier qui représentent davantage la population américaine diversifiée parce que ça a un impact là, sur la course. Je termine avec Michael Bloomberg, ancien maire de New York, républicain converti, donc plus que centriste. Ben lui, il est même pas là. Son nom va commencer à apparaître quand ça va être dans les gros États, en Californie, au Texas, en Floride, New York. Présentement, il a dépensé 350 millions de sa poche en publicité. Lui, il fait le calcul qu'il a besoin de 1990 délégués, fait qu'il va tout miser en Californie, en Floride, au Texas, New York, les gros États. Puis son pari, lui, c'est quitte au double. Si je gagne les gros États, il fait même pas campagne au New Hampshire, en Iowa, au Nevada. Il est même pas là. Son nom n'apparaît même pas sur les bulletins de vote. Ça, on appelle ça acheter une campagne. C'est assez l'antithèse de Bernie Sanders.
Oui, non.
Bernie Sanders doit rager quand il voit
ouais,
ça.
Ouais, c'est sûr. Mais Bernie est un peu plus...
Et sais-tu ce qu'a dit Bernie Sanders?
Non.
Parce qu'il a rappelé qu'il avait gagné New Hampshire, mais qu'il avait eu le vote populaire en Iowa, même s'il n'a pas eu délégué. Il dit, il va falloir battre Donald Trump. Il dit, moi, je veux gagner. Mais peu importe ce qui va arriver, après, on va s'unir et on va battre Donald Trump. C'est différent parce que rappelons-nous qu'il n'a jamais vraiment appuyé Hillary Clinton en 2016.
Mm-hmm. J'ai bien hâte de voir. Hey, merci Patrice Bouchard pour toute la sagesse qui est en toi, que tu nous exprimes de manière si
Je me surprends,
si moi. Oui, t'es un très bon vulgarisateur de l'actualité. Merci et merci à vous d'avoir été les nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.
Bonne semaine.